Dans un sens, on va essayer de... je vais un peu... C'est pour que vous le fassiez un peu naturellement, vous le faisiez dans votre tête, mais qu'est-ce que c'est ? Donc le triangle de l'éthique, hein, c'est ça que vous voyez au tableau, sur le mur en tous les cas, c'est que veux-je faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? En fait, c'est essayer... L'éthique, c'est essayer de répondre à ces trois questions, hein, sur n'importe quel sujet dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire ? Et finalement, et bien sûr, ce qu'on va dire, c'est chercher les réponses dans la Bible. Et s'il n'y a pas une réponse directe, et ben c'est par implication, c'est des principes. Bon, c'est des choix et qu'il faudra faire. Et donc, ça fait partie de notre vie. Donc, la bonne vie, ça veut dire qu'il y aura des choix. Hein, ça, je fais, ça, je ne fais pas. Il y a des choix à faire. Il y aura des objectifs, qu'est-ce que je veux accomplir et par quels moyens. Il y aura des règles que moi, finalement, c'est pas mon Église qui me les impose, c'est moi. Hein, dans mon étude de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, je m'impose des règles. Et puis des vertus. Des vertus, c'est-à-dire, par exemple, c'est une personne paisible. Peut-être qu'il ne l'était pas avant de connaître le Seigneur. Mais tout d'un coup, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui apporte la paix, qui vit dans la paix, ou bien l'amour, ou oublie soi-même et il vit pour les autres. C'est des choses qu'on peut développer par la suite, hein, dans notre vie chrétienne. Et donc, finalement, on va essayer de un peu détruire l'idée de nous, dans mon pays, on faisait comme ça. Ou dans ma famille, on faisait comme ça. Ce n'est pas une réponse pour un chrétien. C'est la Bible, qu'est-ce qu'elle dit, hein? Et ce n'est pas pour détruire la culture, mais c'est que, vous connaissez mon expérience, je travaille beaucoup avec les musulmans, dans l'islam, la vie de tous les jours et la religion, c'est très, très... On ne peut pas les séparer, hein, c'est très imbriqué l'un dans l'autre. Et donc, quand quelqu'un vient... au Seigneur, il vient, mais il vient avec tout son bagage, avec tout ce qu'il a. Et après, il faut réfléchir avec lui, enlever et dire, non, ce qui est de ta culture, tu le gardes, mais ce qui vient de l'islam, il faut l'enlever. Et le remplacer par autre chose. Hein, et c'est ça le principe. Et donc, c'est un peu cette pensée-là qu'on avance avec l'éthique. Donc, l'importance d'une éthique chrétienne, donc il y a des choix, des objectifs, et tout ça, ça doit aller ensemble pour faire une vie harmonieuse. Hein. Et normalement, un chrétien qui vit vraiment comme il doit vivre, comme le Seigneur veut, il ne trouve pas la vie chrétienne pénible. Hein. Le Seigneur dit « mon joug est doux, mon fardeau léger ». Alors s'il est pesant pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, donc ce que le Seigneur nous apporte, hein, ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est pas juste le pardon des péchés et puis le ciel. Non, c'est de pouvoir vivre une vie équilibrée, harmonieuse, paisible, et au point que le monde dit, mais moi je comprends pas comment toi tu arrives comme ça. C'est ça ce témoignage, hein, c'est très important. Donc, mais ça, c'est des choses qui doivent aller ensemble. Hein. Donc il y a les choix, il y a les objectifs, les règles et les vertus. Et tout ça, vous mettez le puzzle ensemble et puis après, vous avez une vie complète. Et c'est ça qui va... C'est lorsque il y a ça, par exemple, hein, je prends le côté pratique. Si j'ai ça dans ma famille, dans ma vie de famille, eh bien, les enfants ne vont pas dire « le christianisme, les chrétiens, oh, j'en ai... » Parce qu'il dit, à l'église, ils sont d'une manière, mais à la maison, c'est autre chose. Non, non, il faut que ça soit, hein, j'ai une éthique pour ma vie qui est basée sur la parole, et je la vis tous les jours, à la maison, au travail, partout, je suis la même personne, et je suis à l'aise. Hein, et c'est, finalement, les gens disent, ouais, tu as quelque chose là. Il y a l'importance d'une éthique, hein, donc c'est important à avoir. Et ça ne vient pas tout seul. Hein. Ce n'est pas « bon, ben, je lis ma Bible, puis je vais à l'église ». Non, non, il y a des gens qui viennent à l'église depuis 30 ans et ils n'ont pas bougé. c'est quelque chose où on se prend en charge. Quand tu viens au Seigneur, tu viens, tu fais rien, tu reçois la vie. Une fois que tu donnes la vie, il dit maintenant c'est à toi de la vivre. Et c'est à toi de maintenant ta pensée est libérée du pouvoir du péché. Maintenant il faut commencer à réfléchir, dire comment tu vas vivre cette vie. Hein, et c'est important. Et donc ça touche pour le domaine. Là j'ai pris un symbole, c'est les gens du monde, hein, ça, y a rien de chrétien là. Et regardez à quoi ils pensent. Ils pensent à des tas de choses qui doivent rentrer là-dedans et que ça aille tout ensemble. Hein. Donc l'obligation d'une éthique chrétienne, et je dois choisir. C'est important de comprendre que je peux choisir. Hein, et ça devient, je choisis, après ça devient ma conviction. Tant qu'une chose n'est pas une conviction personnelle, je ne vais pas la vivre. Si je ne suis pas convaincu que c'est ça, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais dire, bon, à l'église, parce que eux, s'ils voient ça mal, alors je vais le faire. Mais ça, c'est une chose qu'après, dès que je ne suis plus à l'église, je ne le fais plus. Hein, donc et malheureusement, c'est ça qui... Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Hein, et c'est pas bon. Donc, c'est l'importance d'une éthique où j'ai décidé ce qui est biblique et comment je vais vivre ma vie. Et je la vis, même s'il n'y a personne d'autre dans l'église qui le fait. Moi, c'est comme ça que je vais la vivre, parce que je la vois dans le Seigneur. Hein, donc, c'est très important de pouvoir choisir. Sinon, si je choisis rien, ben, il n'y a pas de sens. Donc, je fais des choix. L'enfant de Dieu peut choisir. Et vous êtes libre de choisir. Vous savez, différentes églises, vous allez dans différentes églises, ils font les choses différemment. Hein. Vous avez une église, vous faites comme ça, une autre, il fait comme ça. Pourquoi ? Ben justement, bon, dans un sens, le genre du monde, il dit, ouais, à l'église catholique, toutes les églises, tu rentres dans une église, c'est partout pareil. Tu vas chez les musulmans, tu peux aller d'une mosquée à l'autre, ce sera pareil, c'est exactement pareil. Mais vous, les évangéliques, chacun, il fait ce qu'il veut. C'est une critique, mais c'est une vertu aussi. C'est qu'on est, on est libre et on vit notre vie. Hein, et on la vit, et on l'exprime différemment. Et donc, différentes églises ont différentes personnalités. Elles vivent cette vie chrétienne. Elles font des choix. Hein, on fait ça, on ne fait pas ça, on ne veut pas ça, on veut comme ça. Et tout ça, c'est très important. Là, je discutais avec Tim Ayermans de Luxembourg, là, et il dit, voilà, la manière de faire le culte, eh bien, va être une expression de ta théologie. Comment, ce que tu penses de Dieu, comment tu penses de Dieu va déterminer comment tu fais ta louange. Hein, et donc, et c'est important, ça rentre dans tout ce que je fais. Hein. Il peut choisir, il doit choisir, hein, nous avons ça. Alors, les obligations morales, donc il nous en parle. Qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je lis dans la parole, je vois qu'est-ce que je dois faire. Je suis en train de parler là, peut-être je vais vous poser la question. Donnez-moi des choses qu'en tant que chrétien, je dois faire. Vous avez des idées ? Prier, lire la Bible, comment ? Évangéliser. Ça, c'est des... Donc, ça, hein, s'aimer les uns les autres, pardonner, il y a plein de choses comme ça. Ben, j'établis, je dis, ça, c'est des... Il faut. Et je les mets dans ma tête, il faut. Même si je dis, il faut pardonner, ça veut dire, il faut pardonner. Je pardonne à la maison, je pardonne au travail, je pardonne à l'église, je pardonne partout, je pardonne. Et ça n'a rien à faire avec ce que l'autre fait. Ça, c'est mon éthique personnelle. Donc, je pardonne. Même si l'autre, il ne veut pas, même s'il ne demande pas pardon, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est son problème. Moi, je pardonne. Parce que la Bible me dit de pardonner. Dieu, il m'a pardonné. Il ne m'a pas demandé si les autres l'ont... Non, non. Dis, tu demandes pardon, tu veux, je te pardonne. Après, reconnaître les motivations. Pourquoi ? Pourquoi je vis ma vie chrétienne ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Et ça va être... C'est important. On va pouvoir dire pas mal de choses. c'est ce que l'obligation, c'est ce que je veux faire et ce que je ne dois pas faire, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et ça, c'est les règles que je m'impose. La valeur d'une chose, c'est est-ce que je considère ça comme important, hein, reconnaître les motivations, la valeur d'une chose, est-ce que c'est important que je fasse ça ou est-ce que ce n'est pas important? Si ce n'est pas important, eh ben, ça n'aura pas une priorité dans ma vie. Si je considère, je vois que la Bible m'enseigne et me dit que c'est important, eh bien, je vais donner une valeur et je vais faire le nécessaire pour que ce soit là. Hein? Et finalement, c'est ces décisions-là qui vont déterminer comment je vais vivre ma vie chrétienne. Et si ma motivation, c'est eh ben, je fais faire plaisir au pasteur, eh ben, bon, ça va déterminer sa manière de vivre. Hein, c'est la manière de faire les choses. Je veux faire plaisir à mon pasteur, comme ça il est toujours content de moi et il pense que je suis très bien. Eh ben, si c'est ma seule motivation, eh ben, ça va déterminer comment je me comporte. Et comme il n'est pas à la maison, alors il n'y a pas de problème. À la maison, je fais autre chose. Quand il est là, je fais autrement. Vous savez, tout ça, ça rentre dans la tête. Hein, c'est là. Et c'est très important de non, je ne vis pas pour le pasteur, je vis pour le Seigneur. Ah, bah alors, ça change tout. Ça veut dire, et le Seigneur, il est partout. Hein? Le pasteur, peut-être, il n'est pas partout, mais le Seigneur, il est partout. Donc, ça change tout. Hein? Mais c'est à moi de voir. Et ce n'est pas seulement ce que je sais dans ma tête, c'est ce que je décide dans mon cœur qui va faire la différence. Hein? Alors, je dois définir mes objectifs. Alors, j'avance là. Donc, il y a des valeurs que j'ai reçues. Hein, ça, par exemple, oui, donc les valeurs que j'ai reçues, des choses en grandissant. Je suis né dans une famille, je suis né dans un certain pays, je suis né sous une certaine religion. J'avais des parents qui étaient comme ça, ou c'était une famille dysfonctionnelle. C'était tout ça, ça nous marque. Hein, ça marque notre manière de. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qu'on a héritées. On les a reçues. Ils sont là. Quand je suis venu à Christ, je suis venu avec un bagage, avec des manières de faire, avec un vocabulaire, avec des habitudes, avec des gens que j'aime, des gens que j'aime pas. Tout ça, on est venu au Seigneur tel que nous sommes. Maintenant, il faut commencer à choisir. Hein, quand je suis venu au Seigneur, eh bien, j'étais marqué par la philosophie courante, les valeurs religieuses, politiques, raciales, économiques. Tout ça, c'était là. Hein. Et j'ai peut-être venu avec l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu fais rien. Donc, après, ça décide de tout. Hein, tout ce que je fais, c'est pour avoir de l'argent. C'est un mode de vie. Hein, et si je réfléchis pas, et si je dis, est-ce que ça, c'est normal ou c'est pas normal, ça, c'est à chacun d'entre nous. Hein. Il y a une manière des réflexions humaines. Hein, ce que mes valeurs philosophiques, mes concepts philosophiques, par exemple, je vais vivre autrement si je crois à l'évolution, hein, l'évolution, que les choses se sont développées petit à petit, selon les besoins, tout ça. Si je laisse cette pensée-là, eh bien, je vais pouvoir vivre une autre vie. Et notre société, par exemple, la société dans laquelle nous vivons ici en France, c'est basé sur l'évolution, nous sommes des animaux, et puis c'est le besoin qui développe, tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît, ce que tu peux faire, et puis ça influe sur les valeurs morales, ça influe sur la manière de se comporter les uns avec les autres, ça influe sur tout. Mais si je suis créationniste, que Dieu a créé, et que Dieu avait une intention quand il a créé, ça change tout. Hein? Donc, notre philosophie, elle peut... Elle influe sur ma manière de vivre. Et donc, c'est des décisions. Tu veux dire, non, mais moi, j'aime le Seigneur, laisse tomber tout ça. Ça change tout ta vie chrétienne. Hein, si tu es évolutionniste ou tu es créationniste, c'est pas pareil. Hein? Si tu crois que la race blanche, c'est les plus intelligents, et puis plus c'est foncé, moins c'est intelligent, si tu penses ça, ça va influer sur ta manière de te comporter. hein, ta manière de traiter les gens, la manière de tout, ça change tout. Hein, et comment tu... tes relations, tout, ça change tout. Donc c'est à nous, hein, quelque part, hein, d'aller fouiller dans notre éducation, tout ce qu'on a reçu, et dire, mais est-ce que j'ai pas des idées, hein, et tous, hein, je soulève la question racisme, tous les pays du monde que j'ai rencontrés sont racistes. Il y a des racistes, hein. Parce que c'est pas juste une question de noir et blanc, il y a noir et plus noir. Hein, c'est partout. Donc c'est des choses auxquelles, dans sa tête, il faut mettre de l'ordre. Hein, je regardais l'autre jour, c'est un truc, ces pauvres femmes qui sont obligées de mettre des crèmes pour éclairer leur peau, rien que parce qu'il y en a qui disent c'est plus joli. Et sous cette pression, elles se font du tort et tout ça, et le risque de cancer et tout, rien que pour. Mais dis, est-ce que je pense que c'est juste, hein? Et après, et pour être vraiment pratique, tu es en train de chercher une épouse. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches selon les valeurs dans lesquelles ta culture est enseignée, ou est-ce que tu es en train de chercher selon Christ? Hein, je veux une qui est jolie, qui est claire, qui est... sur quelle base tu as décidé ça? Où tu cherches. Vous savez, c'est important tout ça. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et c'est très important. Ou bien une maman qui dit, ah, pour mon fils, moi je veux ça, ça, ça. Pourquoi tu veux ça? Ben parce que ça fait bien pour les photos. Hein. Et qu'on envoie dans la famille, waouh, elle a des diplômes, elle est belle, elle est ceci, ceci. Et alors? En tant que chrétien, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Et le Seigneur, s'il avait pensé comme ça, tu serais où, toi? Hein? Moi, le dernier, je serais pas là. Hein? Ni intelligent, ni beau. Alors, voilà. Heureusement, c'est pour ça que j'ai marié une jolie femme, pour que les enfants, ils aient un mélange, et puis ça aille à peu près. Hein? Voilà. J'ai dit ça, c'était pour voir si vous étiez réveillés. Hein? Voilà. La culture aussi. Hein? Et dans la vie, dans l'Église... Vous avez tous vécu peut-être des églises ethniques. Le point faible d'une église ethnique, c'est que on règle la vie chrétienne selon la culture et pas selon la Bible. Hein, parce qu'on est tous dans la même culture, donc comment je gère ça? Ben, chez nous, on fait comme ça. Et ben, ça, c'est pas chrétien. En fait, si je peux vous dire rapidement... Je vais prendre l'exemple, on est en France, donc je vais dire français. Hein. Je vise pas Vincent, mais voilà. Marcel aussi, oui. Il y en a deux ou trois, là. Mais je suis un français perdu. Hein. C'est comme ça, quand j'entends l'évangile, la première fois, je suis un français perdu. J'entends l'évangile, je le reçois, je suis un français chrétien. Je suis surtout français et un peu chrétien. Mais à fur et à mesure que l'œuvre de Dieu avance et se progresse, je deviens un chrétien français. Je suis plus chrétien, un peu français, mais je suis plus chrétien. Hein. Vous mettez ça dans votre nationalité. Et dites-vous, où est-ce que je suis, hein? Et si vous voulez savoir où vous en êtes, c'est pas quand vous êtes dimanche matin, tout le monde est là, tout le monde est joli, tout le monde fait des sourires, parce que Albert, il vient de dire une bêtise. Mais c'est... Non, il ne dit pas de bêtises. Ah bon, il a changé alors. Bon, sa femme, elle a réussi quand même.
Il est très sérieux.
Mais, vous savez, c'est quand il y a quelque chose qui va mal, quelque chose va de travers, qui me fâche, comment est-ce que je réagis? C'est là le vrai où je suis. Hein? C'est là où il faut mettre la note. C'est quand quelqu'un m'a fait quelque chose, et puis alors j'ai réagi comme il y a 10 ans. Oh, je croyais que j'avais fait des progrès. Hein, tout d'un coup, il y a des mots que je n'ai pas prononcés depuis longtemps qui sont sortis. Il y a des réactions. Et puis après, et finalement, j'ai dit, bon, je ne parle plus à cette personne. Ah, ben c'est comme ça que la culture faisait. Mais est-ce que les chrétiens font ça? Et si Dieu faisait ça, on serait où? Hein? Donc la culture, c'est pour ça qu'il faut, il faut pas... La culture, c'est très bien, c'est une bonne chose que Dieu a donnée. Mais sachez que c'est des hommes pêcheurs qui sont en train de... Hein, notre culture, elle est beaucoup influencée par des hommes pêcheurs. Hein, donc, voilà. Sinon, la culture elle-même, c'est une bonne chose. La vie en société. Hein, comment... c'est par exemple comment je vais conduire. Je conduis dans la crainte du gendarme ou je conduis avec sécurité. Avec gendarme, pas gendarme, je fais ce qui est normal. Hein? Ce matin, je pensais, j'ai dit quelqu'un qui il fait d'excès de vitesse et puis il tue quelqu'un et dit « Ah, c'est homicide involontaire ». Ben non, non. C'est toi qui as fait une erreur, c'était volontaire. Tu as fait du 100 à l'heure alors que la limite c'est 50. Impossible de s'arrêter, tu l'as tué. Non, c'est pas involontaire. On reviendra là-dessus, hein, parce qu'après. Mais c'est des principes. Là où je gère ma vie, c'est pas les hommes en bleu qui décident de ma vie. C'est moi qui décide comment je vais faire. Hein, c'est ça l'importance. Et ça, c'est un comportement chrétien. Déjà, les gens du monde, ils savent qu'ils ont besoin d'une éthique. Ils ont des éthiques pour la médecine, par exemple, une bioéthique et tout ça. Ils essayent d'avoir, mais bon, ils sont en train de manipuler ça. Après, il y a l'éthique, la police, elle a une éthique aussi. Comment, hein, quand ils t'arrêtent, ils ne te rentrent pas dedans. Ils disent, monsieur, vous avez des droits. D'abord, je vous donne vos droits. Vous avez le droit de faire venir. Ben, c'est des règles que la police s'impose de la manière de traiter les gens avec respect. Hein, c'est des choses qui sont partout. Donc, l'enfant de Dieu doit définir ses objectifs. Là, je vais commencer à vous citer des versets bibliques. Par exemple, la Bible, hein, la Bible, elle accorde une grande importance à la conduite dans le monde. Hein, c'est la Bible. Pour elle, c'est un très important. Donc, je vous laisse chercher. Moi, je vais vous lire 1 Pierre 2,12. Non, 1 Pierre 1,15 qui dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » La Bible dit « Voilà, ce n'est pas parce que les gens du monde, ceci, c'est plus comme avant. » Non, non, Dieu est saint, donc toi, tu vas être saint. Peu importe les gens autour de toi, ce qu'ils sont. Hein? C'est une autre manière de penser. Oh ben je ne suis pas aussi mauvais que ça, je suis meilleur que l'autre. Mais c'est pas une réflexion de chrétien. Je veux être parmi les meilleurs. Non, non, non. C'est question, qu'est-ce que Dieu demande, hein? Et donc là, je m'établis, je définis mes objectifs. Je veux vivre une vie sainte parce que Dieu est saint. Il dit dans 1 Pierre 2,12, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. » Il dit « Eux, ils se comportent mal, mais toi, tu te comportes bien. Pourquoi ? Parce que ta vie, ce n'est pas une réaction au comportement des autres, ta vie, elle est liée à Dieu. Hein ? » Et ça change tout. Ça change tout. Donc, peu importe comment il se comporte, peu importe ce qu'il me dit, moi, je suis moi. Hein, vous avez Jésus. Et quand vous lisez l'évangile, et si vous voulez lire une fois, rien que pour ça, vous lisez, je vais lire tous les évangiles pour voir comment Jésus réagissait aux gens. Eh bien, vous allez trouver qu'il est toujours le même. Toujours, c'est toujours le même Jésus. Il n'y a pas des moments où il... C'est le comportement des gens, ils l'insultent, ils le font, ils l'accusent, ils le traitent d'être né dans le péché, ils disent que tu es illégitime, naissance illégitime, ils ont dit toutes sortes de choses. Et lui, il a toujours été le même. Et ben nous, c'est notre modèle. Hein? Alors dès que je me rends compte que ben, quelqu'un a dit quelque chose, ou j'ai entendu que quelqu'un a dit quelque chose, je ne sais même pas si c'est vrai encore, et déjà j'ai réagi. Et je commence à avoir des pensées sur l'autre. Eh bien, je ne suis pas mieux que lui. Hein, c'est les trucs. Je reviens. Nous avons... Il y a une nouvelle nature que nous avons. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, il dit, non, non, c'est pas... Découvre ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a aussi le fait du témoignage. Quelqu'un tout à l'heure dit on doit témoigner. Mais mon premier témoignage, c'est ma vie. C'est ma manière de vivre. Hein, parce que sinon, les gens ne vont rien entendre. Il dit, écoute, parle plus fort parce que j'entends rien. Tes œuvres font du bruit. Hein, ce que dit par exemple, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ah, on a l'occasion, hein, ici en France. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il a dit, plus il fait noir, plus la lumière elle paraît. Bon, profitez-en. Vivez une autre vie. Hein. C'est dit, une vie irréprochable parmi une génération perverse et corrompue. Il dit, mais regardez Noé. Noé, un homme juste, est le seul à son époque. C'était tellement vrai, c'était pas qu'il y avait des gens... Non, tous. C'est pour ça que Dieu, il a condamné tous à mourir. C'est parce qu'il y avait pas... Mais Noé, lui, est resté juste. C'est comment il a fait ça, hein? Nous, on est encore une petite cinquantaine. Et là, eux, ils n'y étaient même pas. Hein? Les situations dans lesquelles on se trouve exigent qu'on ait des valeurs, qu'on ait pris des décisions. Il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est Colossiens 3:17, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce. Ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux, en même temps, rendre des actions de grâce? Hein? Est-ce que tu peux être reconnaissant au Seigneur et remercier le Seigneur pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, la manière dont tu le fais? Il dit non, c'est voilà, les situations sont là, mais toi, qu'est-ce que tu es? Hein? C'est un peu comme la goutte d'huile qui tombe dans un verre d'eau. Eh bien, elle reste là. Elle reste, elle ne se mélange pas. Elle reste une goutte d'huile. Hein? C'est un peu ce que nous sommes dans le monde. Il y a les événements futurs. Il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Hein, c'est 2 Pierre 3:11. Il dit, oui, tout le monde autour de vous, il va disparaître. Mais vous, vous allez continuer. Donc, raison de plus. Hein, donc, celui qui se laisse entraîner, qui suit le monde, c'est quelqu'un qui ne pense pas la gloire. Hein. Il dit, oh, ben, j'ai dans ma poche, là, j'ai le visa pour le ciel, c'est tout ce qu'il me faut. Après, non. C'est, si tu y crois vraiment, ça change ta manière de vivre. La vie en société le réclame. Ils ne sont pas du monde, mais moi, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, il y a le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Hein. Vous avez une identité à part. Hein. Et ben, ça demande des choix. Hein. Et ça demande des choix. Et chacun de nous, nous sommes des situations différentes. On est dans des quartiers différents. On a des voisins différents. On a un travail différent. On est en contact avec des gens différents. On fait partie d'une famille qui est différente des autres. Donc moi, chacun dans sa situation, dire comment est-ce que je vais me comporter, hein. Combien de trucs, vous êtes là, il y a un mariage, hein, il y a quelqu'un dans la famille, il y a un mariage, je suis invité. Et puis déjà, j'anticipe parce que je sais un peu ce que c'est, je sais qui va être là, tout ça. Et bien tout de suite, vous êtes en train de réfléchir, de dire mais comment je vais faire, comment je vais me comporter. Et ça, c'est même les gens du monde. Hein. Même les gens du monde, ils se disent, ouais, bon, je vais éviter celui-là parce que je ne veux pas créer un problème, sinon on va se fâcher, on va faire la bagarre. Donc je vais essayer de garder ma bouche. Et puis, bon, chacun prend des décisions, hein, pour que ça aille bien. Mais en tant que chrétien, on va le faire encore plus. Hein? Puis après, on sait aussi qu'il y a le tribunal de Christ. Hein, je ne vais pas le développer, le tribunal de Christ, où chacun devra rendre des comptes pour ses œuvres dans le Seigneur. Hein, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, il y a aussi dans 1 Timothée 4:12, Paul qui dit à Timothée, il dit « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. » C'est-à-dire, toi, hein, il y a des gens qui te regardent parce que tu es là depuis plus longtemps, parce que tu as des responsabilités. Sois un modèle. Donc, le fait d'être un modèle et que j'ai du monde qui va m'observer, hein, ne croyez pas que les enfants, ils voient rien, hein. Les enfants, ils voient tout. Et ils disent rien, mais ils voient tout. Et quand ils sont adolescents, ils passent leur jugement. Ils disent, ça c'est du pipeau. Ils y croient pas, ils parlent beaucoup, mais ça change rien dans leur vie, c'est du pipeau. Et puis ils claquent la porte et ils partent. C'est pas tous les enfants qui partent, c'est pas pour ça. Hein, il y en a, mais c'est un choix personnel. Hein, mais il y en a combien qui disent, ah ouais, mais moi, j'ai les chrétiens, j'en ai vu jusque-là. Et puis, voilà, j'avais tout ça là. Je vous laisse noter les versets, en tous les cas, parce que vous ne les avez pas, je crois pas. Si, vous les avez. Si, vous les avez. Hein, voilà, la vie en société, le tribunal de Christ, l'obligation d'être des modèles. Et après, il y a l'enfant de Dieu se réfère à la Bible. Hein, c'est où est-ce que je cherche les réponses? Je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans... à notre église, on fait comme ça. Je cherche dans la Bible. Hein, parce qu'on a justement ce verset qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, donc me donner les choses que je ne sais pas, pour corriger, c'est pour rectifier des choses que j'ai héritées, mais il y a des choses que je ne dois plus faire, pour instruire, donc après ces nouvelles habitudes, et vaincre et corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, ça veut dire disposé, prêt à toute bonne œuvre. Donc il dit, si tu veux pouvoir faire une œuvre que Dieu trouve bonne, ben, il va falloir étudier la Bible. Hein. C'est pas ce que les gens... Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, on parlait... Dimanche dernier, j'étais en Suisse, là, avec... un nouveau converti. La première chose qu'il demande, il vient, il dit, je suis devenu chrétien. Il dit, bon, maintenant, un nouveau converti, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Hein, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, écoute, va demander à ton voisin, dis-lui, un bon chrétien, il doit être comment? Je dis, demande pas à un autre chrétien. Il va te dire, tu aimes tout le monde, puis tu pardonnes, puis n'importe quoi. J'ai dit, demande ton voisin, parce que c'est lui qui est en train de te regarder. Demande ton voisin, c'est à quoi un chrétien? Eux, ils exigent plus que nous. Hein? Vous demandez à votre collègue de travail, dis un bon chrétien, pour toi, un bon chrétien, quelque chose qui est correct, c'est comment? Oh, il va vous faire une liste là, vous allez les écrouler sous sa liste. Et oui, mais dans sa tête, c'est important de savoir ce qu'il pense. Parce que dans sa tête, c'est comme ça qu'il est en train de vous juger, selon ce qu'il a dans sa tête. Et moi, donc j'ai besoin de réfléchir à ces choses, de voir ce que la Bible dit sur tous les sujets. Et n'importe quel sujet, vous êtes en politique, on ne met pas la Bible à côté quand on rentre en politique. En tant que chrétien, vous réfléchissez à la politique, vous dites, mais la Bible dit quoi? En fait, vous n'allez trouver aucun parti qui convient tout à fait. Hein. De dire, il y a de bonnes idées là, il y en a quelques là, mais puis après, il n'y a surtout pas des bonnes idées. Mais bon, le truc, c'est que quand vous réfléchissez, quand vous allez voter, vous allez dire, hey, je vais voter comment hein? Vous pouvez faire comme tout le monde, il vote pour ses propres intérêts. Ah, celui-là, il va me... Hein, parce que celui-là, il veut que la retraite ne soit pas allongée. Ah, ça m'intéresse parce que j'ai déjà 55 ans, je ne veux pas ça. Et donc, je vote pour lui. Mais après, il a plein d'autres trucs. Moi, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais je dis, vous devez réfléchir à tout, à tout. Là, maintenant, Chirac, il vient de décéder. Alors, on dit que des bonnes choses. Moi, je me souviens, quand il était président, il y avait de ces grèves à Paris comme on n'en a jamais vu. Et maintenant, c'était un bon président. C'était du peuple. Les gens du monde, hein, on ne peut pas compter dessus. Après, attendez 2 mois, 2-3 mois, et puis ça va commencer à sortir après. Hein. Pour l'instant, c'est parce qu'il n'est pas enterré qu'on va dire des choses gentilles. J'espère que pour vous, quand vous allez partir, on ne va pas changer de langage. Hein, On va dire des belles choses à l'enterrement, mais j'espère qu'on continuera à dire des belles choses sur vous tout le reste. Hein, dire, je me souviens d'un tel, c'est un modèle pour moi. Hein. Donc après, c'est pas une question de juste établir, mais après il faut établir des règles. Là, je vais aller très rapidement, hein, parce que j'ai rien mis pour vous, mais juste ce principe d'établir des règles, une manière de comporter. Je vous donne un exemple, par exemple, d'une règle. Dans Matthieu, il nous dit, si tu as un problème avec un frère, comment le régler? Il dit d'abord, va le voir et parle-lui avec amour, dans le sens de la réconciliation. S'il ne t'écoute pas, tu prends quelqu'un avec toi, vous allez essayer de le gagner aussi. Il y a une règle, il y a une démarche. Eh bien, dans la vie chrétienne, il y a des démarches aussi. Hein? Pour, pas rien que ça, mais pour, vous devez décider des démarches dans votre vie chrétienne sur toutes sortes de comportements. Là, vous allez parler de choses spécifiques par la suite, mais c'est important d'avoir des règles et de les décider avant que la situation arrive. Parce que dans le problème, on fait ce qu'on a toujours fait. Mais avant qu'il y ait un problème, on peut réfléchir, dire bon, la prochaine fois que ça m'arrive, ou peut-être vous n'êtes pas trop fier de vous quand la manière dont ça s'est déroulé la dernière fois, et dire ben, la prochaine fois que cette personne me dira quelque chose comme ça, ben, comment est-ce que je vais réagir? Et vous décidez vous-même des règles. Parce que lui, à moins que lui, entre-temps, il s'est repenti et tout ça, ben, la prochaine fois, il va faire exactement pareil, lui. Donc, prépare-toi. Hein, tu ne contrôles pas ce qui lui arrive. Hein, après, on lui dit, ouais, mais lui. Mais non, toi, si ta réaction n'était pas bonne, donc le problème est chez toi. Hein, ça peut être un mari avec son épouse, ça peut être un enfant avec ses parents, ça peut être avec un responsable de l'église, ça peut être avec le voisin, ça peut être avec le patron, ça peut être toujours. Mais comment est-ce que je vais réagir la prochaine fois? Hein, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait cette fois-ci, mais qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Et tout ça, hein, ça fait un tout. Hein, qui doit marcher ensemble. Et c'est important. Hein, c'est ça, la maturité. C'est ça, et c'est pas, je dis, bon, on verra hein, ce que je vais faire. Si vous attendez, et puis je dis, on verra ce que je vais faire, et ben, ça ne sera pas bon. Hein. Comptez dessus, et regardez en arrière, toutes les fois où vous n'êtes pas préparé, vous avez pris, parce que ça ne vient pas toujours du même côté. Hein. Et ça ne vient pas toujours quand vous êtes très bien. Hein. Ça, des fois, les situations arrivent et je ne suis pas en état spirituel. Ah, je n'étais pas bien spirituellement. J'avais des heures. Et puis après, en plus, il m'a dit ça. Alors, ah ouais, là, j'ai explosé. Ah ben, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne justifie pas. Les gens du monde, oui, ils le disent tout le temps. Ils disent, ouais, j'étais pas bien, j'ai cassé la vaisselle. Et comme si ça, c'était une explication. Ben, ça ne justifie rien du tout. Ça veut dire que tu avais un problème avant que tu n'as pas réglé, et donc il y a quelque chose qui est arrivé qui l'a déclenché. Mais le problème, il existe depuis longtemps. Développer des vertus. Des vertus, ça veut dire que c'est des choses qui marquent ma vie. Hein, c'est des attributs, hein, c'est des choses. Et ça, c'est quelqu'un qui est toujours pacifique, qui pardonne facilement. C'est une personne qui est aimante. C'est une personne qui... Il cherche toujours l'intérêt de l'autre, il cherche toujours, il s'oublie lui-même. Et tellement il s'oublie lui-même qu'on est obligé de lui dire, non, mais et toi, qu'est-ce que tu te fous hein, mais ça fait partie de la personne. Quand on pense à cette personne, on pense à ces traits-là. Ça devient des vertus. Hein, c'est donc des vertus, ce n'est pas juste pour les bouquins, c'est pour notre vie. Hein, je vis une vertu, je vis plusieurs vertus. Quand il dit le fruit de l'esprit, c'est. Ah ben c'est des choses qui, normalement, c'est là. Hein, si j'ai l'esprit de Dieu en moi, etc. Ben ça, c'est des vertus qui doivent exister. Et tout en même temps. Parce que si c'est un à la fois, la joie, ben le monde, il arrive à créer de la joie pendant un temps, hein, tant que tout le monde se comporte bien. On met de la musique, un peu des certaines boissons, et puis un peu de ceci, et puis tu mets de l'ambiance, et puis tu. Au fur et à mesure de la soirée, hein, c'est comme les mariages, hein, ça commence à une certaine musique, puis après à 10h ça commence une autre musique, et puis après à 11h c'est une autre musique, et puis comme ça les gens ils s'endorment pas. Mais après, à la fin, ils rentrent à la maison, le lendemain matin, ils ont mal de tête, ils sont KO, ils ne peuvent pas aller à l'église. Et tu dis, non, c'était mal fait. C'était mal fait. Parce que normalement, si c'est bien fait, je me sens mieux à la fin. Le fondement de l'éthique chrétienne, est donc, eh bien, c'est basé sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est très important, c'est pas, bon, je vais pas, je peux pas développer cette idée de l'image de Dieu, mais en fait, c'est tout ce que Dieu a dit. Bon, il a dit créer l'homme avec la poussière. Bon, la poussière, c'est neutre. Mais il dit, je l'ai créé à mon image. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image. Il dit, vous lisez, il dit, j'ai créé la femme à mon image. Et j'ai créé les deux à mon image. Hein? En fait, chacun est à l'image de Dieu. Et ensemble, ils sont à l'image de Dieu. Hein? Donc, et chaque aspect eh ben, exprime des choses. Mais le fait, c'est que créer à l'image de Dieu, ça veut dire que j'ai des projets, j'ai la capacité de faire des projets, j'ai la possibilité de prendre des décisions. On n'est pas des animaux. Les animaux, ils ont un instinct. L'instinct, il décide comment ils se comportent. Hein, vous voyez un chat, vous savez comment se comportent tous les chats. Parce que c'est l'instinct. Et vous voyez un lion. Vous dites, oh, mais peut-être celui-là, il n'est pas comme les autres, il est gentil, je vais aller le caresser. Non, non, vous savez, sur un lion, vous savez, sur tous les lions. Hein? Vous n'aimez pas les serpents, vous voyez n'importe quel serpent, petit, grand, même une corde qui est enroulée comme un serpent, ça vous fait peur. Parce que c'est un instinct. Mais les êtres humains, tu ne peux pas. Je ne peux pas dire, je le vois, c'est un Indien, ben, je connais Selvam, tous les Indiens sont comme Selvam. Ah, ils vont se sentir insultés.
C'est la vérité.
Mais je ne peux pas faire ça. On est chacun individuel. Et donc chacun décide pour soi. Mais c'est une belle chose. Hein, vous imaginez, vous dites, je suis né américain, comme ça, hein, C'est fataliste, c'est américain, je pense comme ça, je fais comme ça, je réagis comme ça, je pense comme ça. Et alors ? Mais tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu régénères, tu rétablis un peu cette idée que ce que Dieu avait voulu à la création. Hein ? Sous le péché, tu as pris des mauvaises habitudes. Mais avec l'œuvre de Christ sur la croix, tu reviens à ce que Dieu avait pensé d'Adam. Ce qu'il voulait faire d'Adam quand il l'a créé. Je retrouve cette capacité de pouvoir décider. Il dit, vous n'êtes plus sous le pouvoir du péché. Le péché ne s'impose pas. Il dit, mais les habitudes s'imposent. Ah ouais, il faut les changer alors. Hein? Parce que j'ai l'habitude. Ce n'est pas une excuse. L'habitude, c'est une paresse. Parce que quand j'ai une habitude, je n'ai pas besoin de réfléchir. Il dit, non, tu réfléchis, tu es responsable pour chacun de tes actes, il faut réfléchir. Et si tu veux développer l'habitude, réfléchis et décide de l'habitude et après développe-la. Je lis la Bible quand je me sens bien, quand je ne suis pas bien, je ne lis pas. C'est là où tu en as le plus besoin. Donc prends l'habitude de lire, peu importe comment tu te sens, je lis la Bible quand même. C'est des trucs basiques, hein. Je vous apprends rien là. Et donc, j'en suis où on va en faire encore un peu. Et donc, je suis créé à l'image de Dieu. Et Dieu, dès le début, il a donné des ordonnances. Là, je vais vous poser la question. Quelle est l'ordonnance que Dieu a donnée à Adam et Ève quand il les a créés ? Quelle était la première chose qu'il leur a dit de faire ? De cultiver le jardin, de se multiplier, de se... Plus fort, Janine. Je suis sûr que c'est quelque chose de bien. Ils ont tous besoin de l'entendre. Maintenant, elle ne va pas parler. Janine, j'aime bien la taquiner. Je la connais depuis longtemps. Elle est toute rouge maintenant. Non, mais je ne veux pas qu'elle m'oublie. Non, mais c'est... Remplir la terre, oui. Oui. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont construit une tour, ils ont dit on va tous se réunir là, et Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, ben, je vais vous donner tous des langues différentes. Et les langues différentes, c'est un jugement. Et on en souffre. Hein. Je ne vais pas aller, c'est pas de l'éthique, alors je ne vais pas. J'ai des idées sur beaucoup de choses. C'est fascinant. Hein. J'aime bien être chrétien, parce qu'on peut penser, on peut penser indépendamment sur beaucoup de choses, et on arrive à des conclusions qui sont merveilleuses par rapport au monde. Mais il y a des ordonnances, donc il y avait à la création, donc il y avait les ordonnances, il y avait aussi l'ordonnance de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Hein. Donc il dit tu ne manges pas de cet arbre, quand il dit tu ne manges pas de cet arbre, ça veut dire tu peux manger de tous les autres. C'était pas compliqué. Hein. Et une chose interdite, et vous savez, hein, vous avez eu des enfants, peut-être, où vous avez été enfant, s'il y a un truc qui est interdit, eh ben c'est ça qu'on a envie de manger. Ne touche pas à ça, parce que ben, tout d'un coup, j'ai faim. Il y avait aussi Sinaï, Dieu a donné des ordonnances, on va revenir dessus, hein, là. Et puis, et donc après, il y a l'ordonnance de Jésus aussi, il nous a donné une ordonnance. Vous savez ce que c'est? Quelle était la règle que Jésus a donnée? Aime ton prochain comme toi-même. Ça, finalement, ça règle tout. Hein. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est difficile de ne pas être gentil avec. C'est difficile de ne pas chercher son bien. C'est difficile de ne pas chercher la paix. C'est difficile. Hein, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, par exemple, l'ordonnance du Sinaï, hein, c'est le décalogue, c'est les 10 commandements. Hein, et c'est ça qu'on va faire. Finalement, le décalogue, c'est une règle d'éthique. Hein, c'est comment se comporter. Et Dieu a réduit ça à 10 règles. Ça, c'est parce que les gens sortaient de l'Égypte. C'était des esclaves qui sortaient de l'Égypte. Donc, il a mis ça en 10 règles. Jésus, il a résumé ça, les 10 règles, en disant quoi? Voilà. 2 qui font 1. Hein, c'est 1 en 2 parties. Hein, finalement, qu'il a pris de l'Ancien Testament. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a dit, avec ça, vous êtes couverts. Et bon, il y en a... je me rappelle une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit, oh, moi, j'ai pas besoin du Seigneur, moi, je vis selon la règle d'or. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu y arrives? Il dit, ben, j'essaye. Ah ben, j'essaye, ça veut dire que tu n'as pas la bonne note. Hein. C'est avec ça, tu ne vas pas aller loin. Hein. J'essaye. Mais finalement, il n'y a personne qui peut prétendre aimer son prochain comme toi-même. Hein. Mais finalement, c'est ça la règle. Comment est-ce que je vais faire là? Le chrétien, il se trouve dans cette situation où, parce qu'on a une intelligence, hein, la plupart d'entre nous en tous les cas, on a une intelligence et on reçoit des choses, beaucoup d'informations, des choses vraies, des choses pas vraies, on sait plein de choses. Et vous savez, c'est fou ce qu'on doit... Hein, vous savez, Dieu, c'est un Dieu saint, pur. Mais dans la Bible, il a su nous décrire le péché. C'est-à-dire, dans notre intelligence, on peut connaître des choses bien et des choses mal. Et finalement, de nos jours, on ne peut pas ne pas connaître des choses mal. On est exposé à toutes choses, sans aller chercher. Ce n'est pas la peine de tout fouiller, parce que la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas une bonne chose. Dieu a voulu nous préserver de ça. On a que des problèmes. Donc, n'allez pas chercher à connaître le bien et le mal, parce qu'en général, il n'y a que du mal qu'on connaît. Mais finalement, on sait plein de choses. Des choses pas bien, on entend des choses. Il dit, arrête de me parler, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Mais il y a des choses qu'on entend, on ne peut pas s'empêcher. Hein. C'est vite arrivé, même si on fait... Et il faut faire des efforts, mais on entend quand même. Mais après, c'est autre chose de ce qui descend dans mon cœur. Hein? Il y a une chose que j'ai dans ma tête, mais c'est, je ne vis pas selon ma tête. Je vis selon mon cœur. C'est là où l'éthique arrive. C'est là où la Bible est. Hein? Je vis selon mon cœur. Et après, c'est mon corps, il ne fait qu'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Hein? C'est, je dis, ah ben, je n'ai pas fait exprès, c'est parti. Ah, non, c'est parti, parce que c'était déjà là. Il n'y a pas, d'excuse. Ce qui est dans mon cœur sort. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche, elle n'est pas mauvaise. Hein. Moi, je m'appelle ma mère, elle me faisait, quand on disait quelque chose de pas gentil à son frère, bon, comme moi, j'avais que des petits frères, et elle me prenait la brosse à dents, du savon, et puis elle dit, nettoie ta bouche. Bon, ça n'a pas purifié le cœur, hein, mais c'était un geste pour dire c'était pas bon. Hein. Bon, après, finalement, on a commencé à s'habituer, là, le savon, il ne gênait pas. C'est la capacité d'adaptation de l'être humain, c'est terrible. Hein. Alors après, elle a arrêté de le faire parce que ça faisait pas mal. Et c'est donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Je vais faire une petite pause là. Vous avez des questions? Ou vous avez pensé à quelque chose, ça vous stimuler sur un sujet, quelque chose? Décalogue.
Est-ce que c'est une éthique qui se retraduit dans le contexte néo-testamentaire?
C'est ça la deuxième partie. C'est ça la deuxième partie. On va les prendre un par un. Parce que c'est pas. Si on a une idée, hein, il y a des gens qui disent ouais, ben ça c'est sous la loi, maintenant je suis sous la grâce. Tu n'as rien compris. C'est la pensée de Dieu. Même si tu es sur la grâce, mais ça veut dire Dieu pense toujours ce qu'il a toujours pensé. Hein? Donc oui, c'est des choses qui m'aident dans ma réflexion et dans ma formulation de mon éthique biblique. Il faut que je lise l'Ancien Testament. Oui, Laurent.
Oui, c'est pas une question, c'est une réflexion. J'apprécie dans certaines entreprises, ils parlent de l'éthique déjà. C'est déjà pas mal. Mm-hmm. Ouais, franchement, j'apprécie.
Oui.
Il y a des bonnes choses quand même qui ressortent.
Si, si. Non, mais c'est. Je dis, l'éthique, finalement, qu'on l'appelle comme ça ou pas, il y en a. On le pratique partout. C'est des règles sur lesquelles on a convenu pour nous entendre, pour nous comporter. Comment nous comporter? Comment le patron doit se comporter vis-à-vis de l'ouvrier? Comment l'ouvrier se comporte vis-à-vis du patron? Qu'est-ce qu'on fait pour. On a ça partout. Hein, c'est l'éthique. C'est pour harmoniser, pour mieux vivre. Hein. Le patron, il dit, mais on fait ça pour mieux vivre ensemble. Hein, dans la société, le gendarme, il dit, mais on a des règles, c'est pour mieux vivre ensemble, hein, pour la circulation, pour que ça se passe mieux. C'est ça, hein, c'est la bonne vie, hein, c'est des principes. Mais nous, en tant que chrétiens, on prend ça à un autre niveau, hein, et avec d'autres motivations. Hein, c'est pas juste... voilà. Oui. La déontologie fait partie de l'éthique. La déontologie, c'est les règles que je me suis imposées, comment je vais me comporter avec quelqu'un, comment je vais réagir. C'est les règles que je me... Donc l'éthique, c'est au-dessus. L'éthique, déjà, elle pense à ça, elle veut le faire, elle sait comment elle va le faire, et après, elle décide des règles. Donc une déontologie, le mot, il paraît un peu barbare, mais c'est dire, dans une telle situation, comment je vais réagir. Par exemple, oui. Vas-y.
Tu prends la loi de Dieu par rapport à des non-chrétiens, des gens qui ne sont jamais chrétiens. Et pourtant, je ne sais plus aujourd'hui le cas. Mais plus on en a passé, plus il y a eu des époques peut-être où, en tout cas dans nos pays, où bon, il y avait plus de la loi de Dieu dans la loi du monde.
Mm-hmm. Oui.
Et on voit bien quand même que. Bon, c'était mes parents ou les familles étaient moins dysfonctionnelles. Quand même, il y avait un peu plus de la loi de Dieu dans le monde. Mm-hmm. C'était bon. Pour
oui.
Le monde. Hein.
Mm-hmm.
Même
oui.
Si les gens n'hésitaient pas convertis, il y avait quand même...
Oui, parce que c'était une culture judéo-chrétienne. Donc, où il y avait des valeurs chrétiennes qui étaient là, même s'ils n'avaient pas la foi, mais l'Église imposait certains comportements. qui étaient tirés de la Bible. Hein. Même à l'époque de l'Église catholique, il y avait des trucs quand même qui sont... tandis que quand vous allez dans des religions qui sont pas du tout bibliques, alors là, c'est autrement. Mais même là, par exemple, chez tout le monde, hein, tu ne tueras point. Hein. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains, il parle de la conscience. Il dit, t'as une conscience quand même. Et la conscience, elle est un peu dans toutes les cultures, parce qu'elle est... Dieu a mis une petite voix à la naissance. Il y a une petite voix. Après, tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Ou bien tu la fais taire, ou tu... Vraiment, si tu ne l'écoutes plus, ça s'arrête, tu n'entends plus. Hein, après, tu peux... La première fois que tu voles, tu trembles. Et puis, mais au bout de la dixième fois, tu ne trembles plus. Hein. Tu veux, comme... C'est le gars qui est honnête qui se demande si il est bien. Hein, tellement, ils sont sûrs d'eux. Et que tu parles avec les gens du monde, tu dis, écoutez, voilà, est-ce que vous trouvez ça normal? Ils disent, ouais, non, vous avez raison, hein, mais bon, les choses ont changé. Et puis, c'est... Le mariage, par exemple, le mariage, on va en parler, mais le mariage... Mais les règles du mariage, c'est même pour les inconvertis. Hein, s'ils veulent être heureux, il faut qu'ils respectent les règles du mariage que Dieu a établies.
C'est ça que je voulais dire, c'est que la loi de Dieu, on sait que les hommes ne savent pas la pratiquer. Ils nous sont posés, comme peut-être dès qu'on leur impose, la première chose qu'ils font, c'est pas la pratiquer. Mais quand ils la pratiquent, c'est bon pour eux.
Oui.
Le mariage, par exemple, c'est plutôt qu'aller avec la première fille prochaine. Les gens, dans le temps, qui se mariaient.
Oui. Après, ce qu'ils nous reprochent après, ils nous disent, ouais, ben, les gens, ils restaient mariés, mais bon, ils se tapaient dessus, c'était terrible, et qu'ils ne pouvaient pas, parce que c'était mal vu, donc ils ne se séparaient jamais, et donc il y avait toute cette misère, les gens qui souffraient. C'est parce que la règle n'était pas respectée, c'est tout. Et peut-être ils sont restés mariés, mais ils pratiquent pas les règles du mariage. Hein, donc,
la règle est bonne.
Oui, la règle, elle est bonne. Ben, écoutez, moi, j'ai été dans les pays musulmans, j'ai vu des familles musulmanes qui sont très bien, hein, qui sont meilleures que certaines familles chrétiennes que j'ai vues aussi. Mais c'est parce qu'elles respectaient les règles du mariage. Hein, même si leur religion, c'était autre chose, mais s'ils respectent les règles du mariage, tu as des enfants heureux, tu as des enfants épanouis, des enfants qui... C'est autre chose. Hein. Il y a les règles, c'est comme les 10 commandements. Hein, c'est, à part les 4 premiers qui sont vraiment pour Dieu, mais les autres... Un inconverti, normalement, il devrait les pratiquer. Hein. Et les enfants d'Israël dans le désert, 90% n'étaient pas croyants, hein, mais ils suivaient les règles. Ça allait mieux tant qu'ils suivaient les règles. Par la suite, lorsqu'ils ont abandonné les règles et l'idolâtrie, il y a eu de gros problèmes. C'est tout, c'est garanti. Hein, ça ne peut pas être autrement. Il y a quelque chose au fond de leur cœur, tu parles à n'importe qui, tu dis, est-ce que c'est normal de profiter de quelqu'un? Il va te répondre, il va dire non, mais bon, si on veut réussir dans la vie, si on veut de l'argent, hein, il faut le faire. Et tout. Mais il va te dire, franchement, si tu es tout seul avec lui, il va te dire, non, c'est sûr que c'est pas bien. Il va dire, c'est pas bien de rabaisser quelqu'un. Ils le savent tous. Hein. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ouais, ils sont tous inexcusables. Oui, non, et puis ils en souffrent. Hein. Moi, j'ai déjà visité pas mal de cultures. Il y a des règles de base, tu les suis pas, tu as des problèmes. Et après, donc, la cupidité, ça crée la corruption. Hein. Et dites-moi combien de pays du monde où il n'y a pas de corruption. Mais c'est la cupidité, pourquoi? Parce que c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir, c'est le bonheur, c'est tout ça. Moi, je suis dans le sud, où il y a des belles maisons, mais ils ne sont pas heureux dedans. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Time out.